Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes. Vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. On dira un mot de l'intelligence artificielle. Vous êtes l'auteur de ce fameux rapport dont on a parlé et puis il en était aussi question dans les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champs Actuels. Bonjour Stéphane Van Uffel.
Bonjour Nicolas.
Cofondateur de netinvestissement.fr. Vous me direz ce que vous pensez des propos de Sandrine Rousseau sur comment l'épargne des Français pourrait nous aider.
Vous me gâtez de bon matin.
Voilà, pourrait nous aider à participer au désendettement de la France. C'est pas très 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 clair, mais enfin on voit un peu l'idée qui est derrière.
Oui, quand même.
Il y avait quand même l'idée de contrainte hein, et d'obligation.
Voilà. Évidemment.
Oui, oui.
Sandrine Rousseau.
Bon, le taux de pauvreté. Je sais pas, Éric, comment aborder le sujet en fait. Parce que je me dis, est-ce que bon, c'est une simple photographie? On se dit, tiens, nous en sommes là. Ou est-ce qu'il faut l'aborder sous l'angle, voilà ce que nous disent les chiffres, voilà comment les gens pensent les choses, et souvent sur ce type de sujet, comme par exemple sur à quel niveau est l'inflation, il y a un grand écart. Il y a un grand écart sur les stats, qui sont toujours froides, qui sont toujours cliniques, parce que derrière c'est la vie des gens dont il est question. Et c'est très très difficile à traiter en fait pour nous, sur un plateau de radio-télé.
Non mais c'est vrai, non mais peut-être aussi il faut rappeler c'est une statistique et ce qui est intéressant c'est d'avoir plusieurs statistiques, on peut pas tout résumer en une seule statistique et souvent on dit tiens le taux de pauvreté n'a pas augmenté donc tout va bien. Non, vous voyez, il faut essayer d'un petit peu creuser l'histoire. Peut-être rappeler en deux minutes, le taux de pauvreté, c'est lorsque votre revenu est 60% en dessous du revenu médian. Et donc, le revenu médian, c'est ce qui divise en deux la population. Il y a là 50% qui gagnent plus, 50% qui gagnent moins. Alors, vous voyez, pourquoi, ça c'est tout de même important de le rappeler, c'est que vous pouvez très bien, grâce au transfert, assurer qu'une partie de la population ne descende pas en dessous de ce taux de pauvreté. Et donc, c'est grâce au transfert. Donc, si on est arrivé à 14%, il y a une stabilisation, c'est parce qu'il y a beaucoup de transferts en France. D'accord?
Mais on a quand même 14%.
Mais on a tout de même 14%.
9,1 millions.
Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est si on n'avait pas ces transferts, on ne serait pas à 14%. Alors, nous, on a plutôt la statistique. Alors, vous voyez, ça, c'est la statistique française. C'est à 60% du revenu médian. Au niveau international, c'est plutôt à 50%. Donc, c'est pas exactement les mêmes chiffres. Mais globalement, la statistique internationale, ça veut dire, globalement, si on n'avait pas de transfert, on serait plutôt à 25% de taux de pauvreté et on descend, d'accord, avec un taux de pauvreté au-dessus de tout le monde et grâce au transfert, on descend à des taux de pauvreté en dessous de tout le monde, d'accord. Ça c'est assez important à le dire. Mais pourquoi je reviens. Vous voyez donc, vous pouvez grâce à des transferts essayer de maîtriser le taux de pauvreté. Ça ne veut. Mais vous voyez, le problème c'est les personnes qui sont au-dessus de ce taux de pauvreté. D'accord, qui n'ont pas eu d'aide. En fait, en gros, globalement.
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire.
Eh ben oui, mais là, l'inflation. Et vous voyez, là aussi, on dit que tout le monde a la même inflation. C'est calculé avec une inflation qui est commune. On sait que c'est faux. On sait que tout le monde n'a pas la même inflation, selon que vous soyez un ménage rural, urbain, âgé, pas âgé, aisé, pas aisé. Enfin, il y a autant d'inflation quasiment que de personnes. Et donc, ce qu'on a fait pendant cette crise globalement énergétique, on a essayé d'indexer tous les minima sociaux, tout le bas, la distribution pour justement qu'il n'y ait pas une explosion de la pauvreté, ben on peut dire bravo, ça a marché, il n'y a pas eu d'explosion de la pauvreté. Le problème, c'est les personnes qui sont juste au-dessus, qui, elles, par contre, ont perdu en pouvoir d'achat. On sait, les revenus n'ont pas augmenté comme l'inflation. Et donc, si vous êtes un peu au-dessus, donc vous dites, ben vous voyez, le taux de pauvreté n'a pas augmenté, mais ma situation s'est détérioré. Et donc, c'est ça que révèle un certain nombre d'autres indicateurs qui disent qu'en fait, globalement, et vous voyez, les gilets jaunes, souvent, c'est pas les plus pauvres manifester. C'est des personnes qui sont pas assez riches pour avoir les minima sociaux. et pas assez riche pour bénéficier, parce que c'est un autre élément qu'il n'y a pas dans ces statistiques. C'est, on ne parle que du revenu, mais il y a le patrimoine. Mmh. Et le patrimoine n'est pas réparti de façon égalitaire. Et vous voyez, aujourd'hui, quand vous avez du patrimoine, vous avez peut-être un peu moins de besoins parce que vous avez déjà votre logement, parce que vous avez déjà épargné pour votre retraite, parce que ce patrimoine tient une retraite. Donc, vous voyez, c'est en cela où il faut aller dans plein d'indicateurs. Cet indicateur, je ne veux pas dire qu'il faut le casser, c'est très bien, il faut en avoir, il faut le suivre, mais ça ne révèle pas tout. Et donc, il va falloir creuser et regarder dans toute l'hétérogénéité des statistiques.
C'est difficile de parler de la vie réelle des gens avec des chiffres un peu froids et un peu cliniques. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. J'ai entendu, je crois que c'était Coquerel dire sur un plateau, les inégalités explosent. Non. Okay. C'est toujours ce qu'on entend, les inégalités explosent.
Elles explosent pas.
Mais je vous donne la parole. Et juste, il y a l'histoire du taux de privation matérielle et sociale. C'est terrible, ces critères. C'est terrible. Mmh. Il y en a 13. Il y en a 5. Si vous en cochez 5 sur 13, vous faites partie de ces 13,1%. Mmh. Et c'est, par exemple, posséder 2 paires de chaussures en bon état. Réussir à se chauffer. À manger de la viande ou du poisson tous les jours. À partir au moins une semaine en vacances chaque année. Waouh! Oui, vous disiez, Philippe Aguillon, c'est pas vrai.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu explosion des inégalités en France. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a un système fiscal quand même très redistributif. Et il y a eu des, et puis il y a les prestations. Il y a toutes les études de l'INSEE sur les prestations. Donc, en fait, si vous voulez,
sur le fait que, le système global.
Et redistributif lui-même. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu explosion des inégalités en France depuis 20 ans. Ça, c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que le sujet de la pauvreté est sérieux. Et moi, par exemple, j'étais quand on a voulu durcir trop l'assurance chômage, moi j'étais très inquiet que ça augmente la pauvreté. Et le RSA conditionnel, j'ai aussi très peur que ça augmente la pauvreté. Voilà, ou même des gens juste au-dessus de la pauvreté. Donc c'est vrai que quand il y a eu ces...
RSA sous condition de travail,
de travail, etc. Voilà. Moi, tout ce qui allait dans ce sens, un peu du programme en fait, des Républicains aux élections présidentielles, qui a été un peu ce qui a été mis en œuvre. En fait, depuis 2 ans, on a mis en œuvre le programme de Valérie Pécresse, en gros. Bon. Mais j'avais peur, si vous voulez, que ça ait des conséquences sur la pauvreté. Ça n'a pas été analysé. Moi, c'était un peu ma crainte, vous voyez. C'est pour ça que j'ai jamais été un fervent partisan du RSA conditionnel. Et je suis totalement opposé à la réforme d'assurance chômage qu'Attal voulait mettre en œuvre après la réforme Borne. Je suis ravi qu'elle ait été stoppée et j'espère qu'elle ne sera jamais reprise.
Point de détail, le décret
voilà,
de
juin... Toutes ces réformes-là, il faut regarder l'impact sur la pauvreté. Je crois que c'est très important.
Le décret de jointure prolonger uniquement les règles actuelles de l'assurance chômage qui arrêtait fin juillet va être prolongé jusqu'au 30 septembre. Voilà. Je pense qu'après le 30 septembre, on sera dans un tel autre monde politique qu'évidemment, elle ne sera pas ressuscitée, cette réforme de l'assurance chômage.
Je crois qu'on a mis un... Voilà.
Bon, ça vous inspire quoi? Parce que on est typiquement sur les sujets où celui qui nous écoute... J'ai fait une chronique récemment sur BFM TV. J'ai dit que moi, j'arrivais effectivement... Comment je peux faire autrement que d'avoir des données comme celle-là pour essayer d'analyser les phénomènes? Mais évidemment, ce sont des moyennes, c'est jamais l'avis de personne. Oui. Et quand je viens sur un plateau de télé à BFM TV, que je dis « Ah, il y a des créations d'aides d'emploi !» Celui qui rame depuis 2 ans pour trouver un job, il pense que je dis du flan. Oui. Quand j'arrive et que je dis « Ça y est, les salaires commencent à rattraper l'inflation, le salaire réel va repasser en positif. » Le gars, lui, il a eu que 1% dans sa boîte. Il se dit « Mais je sors d'où, moi ?» Et donc, là, on est sur des sujets très sensibles. Je ne sais pas ce que ça vous inspire comme réaction.
Non, mais juste parce que c'était très bien dit par Eric et puis Philippe a complété. Moi, je dirais juste, évidemment, quand on est en dessous du seuil de pauvreté,
c'est 1216 euros, pour une personne seule.
Et ce qui n'est pas très éloigné du salaire minimum.
Enfin, 1400 le salaire minimum.
Et donc, on est dans une espèce de couloir d'étranglement entre une France en très grande difficulté, on va le dire comme ça, parce que franchement, même si le niveau de pauvreté en France n'est pas le même que dans d'autres pays d'Europe, et alors je ne parle même pas de pays du monde, où alors là, les revenus et les moyens ne sont pas du tout les mêmes, on ne vit pas avec ça. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'à partir du moment où il y a toujours comme ça des statistiques qui vous classent jusqu'à un certain niveau, c'est la petite frange, ce que disait un peu Eric, au-dessus. Ah oui, et moi, j'ai l'impression, quand vous écoutez un peu ce qui s'est passé dans la rue, les gens qui manifestent, celui qui n'a pas eu la sensation d'avoir son augmentation de salaire, etc., lui, il a l'impression, même si ce n'est pas le cas statistiquement, que lui, il s'appauvrit. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pourquoi est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est notre vie qui devient de plus en plus consumériste? Donc, on est obligé d'acheter beaucoup plus de choses qu'avant. Et en fait, finalement, on ne se rend pas compte que nos budgets, on les maîtrise pas comme avant. Je dis juste, il y a cette sensation, moi, qui peut-être... évidemment, la priorité, c'est la pauvreté. Mais les gens qui sont souvent en emploi, vous voyez, qui bossent, etc., etc. C'est ceux-là, à mon avis, qui râlent.
Celui qui bosse, qui s'en sort pas. Oui, mais effectivement.
Non, c'est pas qu'il s'en sort pas. Il a l'impression de s'en sortir de moins en moins.
Il y avait une très bonne formule d'Emmanuel Macron pour qualifier ces gens, justement, qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches.
La France du rétroviseur.
C'était pas celle-là, mais c'était assez bien. Et alors, du coup, ça m'amène à vous poser la question du financement
de l'angle mort, quoi. L'angle mort du rétroviseur.
Oui, la France de l'angle mort.
Un peu la sensation d'oublier.
Et effectivement, vous avez raison de rappeler que les ronds-points, c'était pas du tout des gens qui vivaient du RSA et qui étaient inscrits à l'assurance chômage.
À la base, c'était des retraités, surtout au départ.
Surtout au départ.
Mais d'ailleurs, je sais qu'on va aborder le sujet du SMIG. Mettre un SMIG à 1600 euros, ça va encore plus écraser la distribution des salaires. C'est ça le problème.
Ça, c'est sûr que.
Donc, il y a peut-être d'autres instruments que le SMIG, des primes d'activité ou d'autres instruments qui éviteraient, justement, d'écraser encore davantage la distribution des salaires. Vous voyez, c'est ça le problème. Un des problèmes du SMIC, c'est exactement ça. Ça va aggraver le sentiment de déclassement de gens qui sont juste au-dessus.
Et donc,
c'est pour ça qu'il faut s'attaquer au pouvoir d'achat. Mais le SMIC n'est peut-être pas le bon instrument pour le faire.
Et Nicolas, juste deux mots. J'ai la sensation que quand vous écoutiez tous ces gens qui étaient interrogés là pendant les élections législatives et qui vous parlaient, en fait, du pouvoir d'achat, alors là, les extrêmes se sont répandus sur ce thème du pouvoir d'achat. Moi, je pense que c'est pas ça qu'expriment les Français. C'est cette sensation,
De déclassement.
De déclassement.
Ouais,
donc, ils ont l'impression, évidemment, d'avoir moins de pouvoir d'achat. Mais c'est juste parce qu'en fait, l'écart entre ce qu'ils estiment être vraiment le truc à ne pas atteindre et qui peut être extrêmement effrayant quand on est au SMIC aujourd'hui, les mecs font des efforts et pour autant, ces efforts, ils ne les voient plus. Ils ne les sentent plus. Et c'est ça qui pousse peut-être à un vote extrême qui finirait très mal.
L'histoire dont vous parlez, Philippe Aguillon, c'est exactement ce que disait Stéphane Carcillo, qui est venu dans l'entre-deux-tours, qui avait fait qui avait chiffré. Il est président du groupe d'experts sur le SMIC. Et il disait qu'avec la prime d'activité, on évitait probablement les défauts d'une hausse violente du SMIC. Et en plus, on cible une population.
Je préférais la prime d'activité.
Il disait, s'il s'agit de mettre 200 euros, on met 200 euros de prime d'activité et ça coûte plus 20 milliards. Mais 10 milliards d'euros. Voilà. Alors après, je vais revenir sur le calcul qu'on a fait avec Christian Chavagneux hier, qui lui défend la hausse de SMIC et qui considère que le coût net à l'arrivée serait de toute façon.
Oui, mais il répond pas à l'argument d'écrasement. Un argument aussi important.
Non, mais absolument.
C'est pas très clair en termes de coût pour les entreprises quand même.
On va en reparler.
Je veux bien repartir sur le SMIC, mais j'aimerais bien revenir quand même sur quand on regarde les taux de pauvreté sur longue période. Moi, ce qui me frappe tout de même, c'est que vous voyez, en 96, le taux de pauvreté était à 14 et quelques, et on a réussi à le faire baisser jusqu'en 2004 grâce aux créations d'emplois. En créant beaucoup d'emplois, le taux de pauvreté est passé de 14,4 à 12, à 13, à 12,2, un truc comme ça.
Oui, on a été en dessous de 13.
On l'a baissé de façon significative grâce au taux d'emploi. Ce qui est intéressant, là, c'est que le taux d'emploi aujourd'hui, dans la période récente, augmente de façon considérable et le taux de pauvreté augmente. C'est-à-dire, quand vous faites le taux de pauvreté entre 2019 et aujourd'hui, d'accord, il a augmenté alors que le taux d'emploi a augmenté. Donc, vous voyez, je pense que là, tout de même, il y a un petit. Alors, même si, encore une fois, il ne faut pas, avec un seul indicateur, faire des politiques. Mais cette idée selon laquelle, en faisant augmenter le taux d'emploi, et que ça doit être ça la politique, augmenter le taux d'emploi, ça va suffire à tout régler. À régler les taux de pauvreté, à régler les déficits publics. On voit que, vous voyez, on a les taux d'emploi historiques. On n'a jamais eu autant d'emplois en France par rapport à la population en âge de travailler, et on n'a jamais eu autant de déficits, et le taux de pauvreté ont augmenté. Donc attention.
C'est vrai. Non, c'est vrai ce que vous dites.
Donc attention cette simplicité, mais que j'entends quand même souvent, il suffit de. Oui, ça c'est quand même le raisonnement d'économie.
Mais on arrive à expliquer.
Il suffit d'augmenter le taux d'emploi.
Mais nous l'avons pas dit.
Cette idée. Il suffit d'augmenter le taux d'emploi et vous verrez tout ira bien. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça soit un emploi de qualité pour qu'il n'y ait pas le sentiment de déclassement.
C'est-à-dire
que
ça c'est hyper important.
Oui, là derrière il y a quand même la désindustrialisation. Quand vous étiez, il y a la polarisation du marché du travail. Avant il y avait des emplois peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés. Maintenant on crée que des peu qualifiés, soit des très qualifiés. La classe intermédiaire, elle n'existe plus. C'est quoi? C'est la désindustrialisation. Quand vous désindustrialisez un pays, quelque part, des emplois moyennement qualifiés disparaissent et vous dites aux personnes, va travailler dans les services à la personne, va travailler dans les services. Ok, j'ai un emploi, mais c'est pas ma qualification initiale et mon salaire est quand même plus faible que celui que j'avais quand j'étais dans l'industrie parce que
c'est ce qui explique le raisonnement que vous venez.
Et donc,
on revient typiquement sur l'écart entre le seuil mais la pauvreté et les salaires de ces jobs-là, il est très clairement pas assez. Non,
mais il c'est complètement implacable. Le taux d'emploi, effectivement, n'a jamais été aussi élevé. Le taux de pauvreté s'est accru. Il y a un sujet quand même. Et alors, quand on regarde là, les chiffres de l'INSEE, la pauvreté des salariés, elle recule. Elle est à 6,1%. La pauvreté des chômeurs,
elle recule juste cette année.
Oui, mais de 0,2
points. De 2019, elle a augmenté. C'est ça qui est étonnant.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est 6,1% pour celui qui travaille, c'est 35% pour celui qui est au chômage.
Oui, oui.
Le taux, c'est juste.
Donc,
mais j'ai envie de vous répondre, Eric. Le travail est quand même un élément de la solution. L'emploi est un élément de la solution, même si effectivement ce que vous dites.
Non, parce que là vous ne regardez que plus sur une année.
C'est-à-dire que ce que vous ne dites pas, s'il n'y avait pas le taux d'emploi, le fait que la pauvreté aurait augmenté encore plus. Si le taux d'emploi, c'est pas l'augmentation du. Je ne crois pas qu'Éric soit en train d'expliquer que c'est l'augmentation du taux d'emploi.
Ah non,
mais qui a suivi la pauvreté. C'est une condition nécessaire et non suffisante. Voilà, je pense que c'est ça qu'Éric a voulu dire. Donc il faut d'autres politiques d'accompagnement, primes d'activité, qualification, etc.
On va y revenir dans un instant.
Mais Nicolas, forcément, la stat sur les salariés qui sont dans le taux de pauvreté,
oui, 6,1%.
Ce sont des gens qui ne travaillent pas à plein temps, donc.
Non mais forcément, tu as complètement raison.
Oui, c'est
forcément les temps partiels.
Ah ben c'est là.
Et vous savez quoi, dans les temps partiels, c'est 80% des femmes,
bien sûr.
Ah ben c'est avec des enfants.
C'est la grande démonstration du dernier bouquin de Gilbert Sept. La pauvreté laborieuse, c'est lié non pas au niveau du SMIC, c'est ce que j'ai expliqué à Marine Tondelier la semaine dernière, mais c'est lié au fait que le SMIC est un salaire horaire et quand vous n'êtes pas à 35 heures par semaine, mais à 12,
c'est ça. Et après, si je peux rajouter un élément par rapport à ça, c'est vrai que effectivement, pourquoi on a l'impression quand même d'être un peu moins riche, même si nos revenus ont augmenté, c'est qu'on a une part de notre consommation contrainte qui est extrêmement importante. Et dans la consommation arbitrable, finalement, elle est de plus en plus faible. Et plus vous êtes modeste, plus cette part est faible. Et c'est quoi l'arbitrable ? Eh ben, c'est l'alimentation essentiellement, et c'est l'habillement. C'est-à-dire que tout le reste, les loyers, de toute manière, c'est un sort de forfait. L'internet, c'est du forfait, et tout est du forfait. Et donc, du coup, dès que vous avez un petit pépin, eh ben, vous arrêtez de vous alimenter correctement et vous arrêtez de vous habiller correctement.
Il y a un vrai sujet sur le loyer, quand même.
Parce que là, le loyer.
J'allais dire quand même que
depuis 24 mois, et se loger est devenu encore plus un impact sur le budget des Français.
C'est
déjà le cas depuis longtemps.
Tu as complètement raison, et c'est là où les inégalités sont très fortes. C'est-à-dire que dans le calcul de l'inflation, on ne compte pas vraiment le fait que le loyer...
C'est un problème de l'IPC.
Oui. Et donc, quand vous êtes propriétaire, ce n'est pas le même problème que quand vous ne l'êtes pas. Là aussi, il y a des inégalités dans l'accès à la propriété.
Évidemment.
Juste avant de marquer une pause, généralement, on dit si on veut modifier le financement de la protection sociale, on passe du modèle bismarckien à un modèle beveridgien, et on utilisera soit la TVA, soit la CSG. Et là, voici que l'ancien directeur du cabinet de Muriel Pénicaud dit non. On va taxer les investissements, on va taxer les vieux et on va taxer l'héritage. Ça vous inspire quoi ? Vous avez une petite idée, Stéphane Vanifel ?
De toute façon, on s'y attendait un petit peu que finisse toujours comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez de façon plus ou moins extrême...
Mais ça veut dire qu'on taxe beaucoup moins le travail et on augmente le salaire net.
Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt favorable dans le cas. Mais je trouve que derrière, les sources... ne sont pas forcément hyper fair play. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on pointe encore certaines catégories de personnes, et je fais partie des gens qui pensent que c'est pas forcément une bonne idée de toujours de réagir comme ça.
Bon, alors évidemment avec la CSG vous ratissez large.
Mais bon. En plus.
Éric Ayer.
Oui, mais enfin, moi je pense que qu'on remette à plat le financement de modèle social, c'est extrêmement important. À coût inchangé, encore une fois. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que effectivement, il y a un certain nombre de dépenses sociales, d'accord, qui ne sont pas du salaire différé. Ouais, le bismarckien, ça devrait être ça normalement. Non, vous voyez quand toutes les dépenses de famille ou même une grande partie des dépenses maladie, ça a aucun sens de mon point de vue que ça soit financé par des cotisations. Alors ça l'est de moins en moins parce qu'on a transféré sur la CSG, mais on devrait quasiment tout transféré sur la CSG, ce qui est de la famille et ce qui est de la maladie. C'est tout le monde a droit à être bien soigné et tout le monde a le droit à des prestations familiales pourvu qu'on ait des enfants. C'est pas le fait de travailler, d'être salarié ou pas salarié. Donc qu'on passe sur l'impôt, d'accord, après qu'on choisisse le type d'impôt, pourquoi pas. Donc on fera baisser les cotisations. Mais en revanche, sur la retraite ou sur le chômage, moi il me semble que c'est encore normal que ce soit des cotisations sociales parce que effectivement c'est des droits différés pour ces personnes-là. sourd. Et que l'employeur paye pour la retraite de son salarié ou paye sur, tiens, si je te mets au chômage, eh ben, tu auras droit à quelque chose. Je trouve pas ça. Donc, et moi, je pense que la CSG, c'est le meilleur impôt.
Donc, il faut pas aller taper les héritages,
Ça devient un peu bizarroïde.
L'héritage, c'est pas jusqu'à quand.
Il y a toujours des sortes d'instruments. C'est-à-dire que je crois qu'il faut savoir quel instrument utiliser pour faire quoi. Chacun arrive avec son idée.
C'est bien ma question.
Le concours Lépine, quoi. Tu vois, je crois que il y a un système de taxation optimal pour lever l'impôt, et puis ensuite il y a la redistribution qui est en elle-même un sujet, et on veut faire plusieurs choses puisque l'impôt est censé financer des dépenses publiques, des investissements et également redistribuer. Donc il faut faire très attention parce que sinon on arrive chacun avec une idée et on voit plus l'équilibre général et on voit plus l'ensemble, et on arrive avec quelque chose qui est pas cohérent.
Bah, surtout que notre camarade Fouché, il parle évidemment des héritages. Je voudrais savoir comment il va faire pour encore plus alourdir la fiscalité des héritages, parce qu'en France on a quand même déjà une fiscalité relativement sport sur l'héritage, mais c'est discutable. Moi j'ai des solutions s'il veut, mais il parle aussi, si j'ai bien compris, de taxer l'investissement. C'est quoi taxer l'investissement? Les retraites, on a compris, c'est CSG, CRDS, c'est bon, de la petite retraite à la grande.
C'est une idée, c'est pas un acte politique, attention.
Ça veut dire quoi taxer l'investissement?
Il n'y a pas grand sens, je suis d'accord.
Non, mais on nous dit il y a un mois que la France est redevenue le pays d'Europe le plus attractif aux investissements étrangers, etc.
Pas sûr que ça dure, ça, tiens.
Bah, avec ça, vous imaginez bien que là. Alors,
on va voir qu'il pose.
Bon, il n'a pas creusé, j'ai cherché, il n'a pas creusé.
Dans un instant, je commencerai par vous, Philippe Aguillon, sur ces fameuses mesures, notamment le SMIC à 1600 euros net. J'ai repris les arguments hier de Christian Chavagneux, qui est quand même objectivement l'un des seuls à être venu défendre l'idée de monter le SMIC. La plupart de mes invités.
C'est pas mon domaine d'expertise, le SMIC.
Non. Je vous ferai quand même réagir. Et puis, il y a également effectivement l'ISF avec l'outil de travail. Je pense que vous adorez cette idée, Stéphane Vanhoeven.
Je suis fasciné.
Abrogation de la réforme des retraites, tranche d'IR à 90%. Il y a un chiffre que j'ai trouvé extra, je vais vous le donner tout à l'heure. Le fait d'avoir baissé l'IS en France a augmenté les recettes.
Et oui, c'est ça.
Sur la période.
Donc, il y a un truc qui s'appelle la courbe de l'affaire. C'est ça dont je voulais parler. Je voudrais en parler.
J'ai pas osé le dire.
Parce que,
On va en parler.
Mais Saez Zucman dit un truc hallucinant dans un des livres qu'ils ont écrit.
Oui, en 2021.
Ça n'a aucune importance d'être du côté négatif de la courbe de l'affaire.
Mais Zucman reconnaît qu'il y a un niveau au-delà duquel on sait que les recettes baisseront.
Mais il faut le faire quand même.
C'est au nom de la baisse des inégalités, monsieur Aguillon.
Non, mais ce qui est là. Ça, je trouve que c'est inacceptable.
Je suis dans le rouge là. Il faut que je marque une pause.
Ça finira. L'affaire, c'est tout récent.
Voilà.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.